Soyez bienvenus, merci de votre fidélité internationale. Nous allons aujourd'hui parler de l'Italie, nous allons parler de l'Europe, nous allons parler des affaires du monde avec notre invité Enrico Letta. Merci d'être sur le plateau d'International avec RFI et Le Monde, et donc TV5 Monde et le quotidien Le Monde. Nous vous avons convié car l'actualité européenne est en effet importante. Vous avez été parlementaire, vous avez été ministre, vous avez été Premier ministre d'Italie en 2013 et en 2014, avant d'être remplacé, on pourrait dire évincé, par l'actuel Premier ministre Matteo Renzi. Donc beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud. Nous allons commencer cet entretien peut-être en vous posant une question toute simple. Est-ce que nous recevons aujourd'hui un ancien homme politique retiré de la politique, puisque j'ai oublié de préciser que vous dirigiez le Collège des Affaires Internationales à Sciences Po Paris. Vous avez changé de fonction, ou quand on est politique, quand on l'a été et qu'on est parti dans les conditions qui sont les vôtres, on se dit je ne m'interdis rien.
J'ai changé de vie parce que je pense qu'aujourd'hui c'est fini avec les longues carrières politiques de 40 ans dans lesquelles vous passez d'un fauteuil à l'autre. Les gens n'en peuvent plus de ce genre de politique, et c'est pour ça que je continue mon engagement politique en n'étant pas parlementaire, en n'étant pas payé par le contribuable italien, mais je fais mon travail. Et mon travail aujourd'hui, c'est un travail fascinant avec les étudiants. C'est
à Sciences Po Paris, oui.
Sciences Po Paris, à l'École des Affaires Internationales, PSIA.
Mais vous ne me répondez pas. On a vu l'ancien Premier ministre français, Alain Juppé, qui revient en politique, est revenu en politique, après avoir été enseignant au Québec.
Il était Premier ministre il y a 20 ans.
Ouais. Donc, ça vous laisse de la marge?
Non, écoutez, je pense que j'aime la politique, j'aime être dans le débat politique, et donc je vais continuer à être dans le débat politique. Maintenant, je suis engagé et vraiment de tout mon cœur avec les jeunes étudiants de Sciences Po, et c'est fascinant d'y être là.
Alors, on va peut-être... Sophie Malibaud.
Juste une question, la carrière politique à l'échelon européen, ça ne vous tentait pas?
C'est pas une carrière dans laquelle on est candidat à quelque chose. Il faut être choisi. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc je suis vraiment maintenant... Paris, pour moi, ça a été une grande chance. Je suis content d'être ici. En plus, l'École des Affaires Internationales de Sciences Po est une école dans laquelle il y a les étudiants de toutes les parties du monde. 70% des étudiants viennent de Chine, Indonésie, des États-Unis, beaucoup d'Italiens qui sont là. Donc faire mon cours là,
on a bien compris, que
et
vous
diriger
êtes un
l'école.
Homme heureux et comblé actuellement.
Oui.
Alors nous allons parler de l'Europe avec un climat qui, d'une certaine façon, on va le constater, se détériore. Nous avons choisi l'affaire des migrants pour montrer les difficultés des 28, difficultés dans leur pays, et peut-être à parler d'une seule voix, notamment en ce qui concerne l'Italie. Je vous propose de revenir donc sur la situation des migrants en Europe, avec bien sûr une image qui a fait le tour du monde.
L'image a ému le monde entier. Celle du corps sans vie du petit Taylan, 3 ans, échoué sur une plage turque.
C'est une tragédie, mais c'est aussi une interpellation à l'égard de la conscience européenne.
Le drame des migrants en Europe a un visage, il est tout à coup mis en lumière. Berlin assouplit ses règles d'accueil et, avec la France, appelle à des quotas.
Nous devons obéir à des principes de base. Ceux qui ont besoin d'être protégés doivent recevoir notre aide. Nous avons besoin de quotas contraignants au sein de l'Union européenne pour se partager la tâche. C'est le principe de solidarité.
Mais au sein des 28, cette générosité fait grincer des dents, notamment en Europe centrale. Jean-Claude Juncker s'insurge.
Il n'y a pas assez d'Europe dans cette Union. Et pas assez d'union dans cette Europe.
Tenante d'une ligne dure, la Hongrie construit une clôture barbelée à ses frontières serbes et croates, submergée par l'afflux massif de migrants.
Les migrants ne sont pas seulement en train de cogner à nos portes, ils les enfoncent. Ils ne sont pas quelques centaines, ni quelques dizaines de milliers, mais des millions à assiéger nos frontières.
D'autres pays lui emboîtent le pas, tels la Slovénie, la Macédoine ou encore l'Autriche. L'Europe se morcelle. La libre circulation des personnes est menacée. Même les pays scandinaves se referment. Le Danemark et la Suède instaurent des contrôles à leurs frontières. Faute de réponse efficace, après la Grèce, c'est l'Italie qui prend ses distances avec Bruxelles.
Il est fini le temps où l'Europe donnait des leçons et des devoirs à faire à l'Italie.
Isolée, la chancelière allemande tient bon, mais les incidents à Cologne l'obligent à durcir son discours. La nuit du Nouvel An, des femmes sont victimes d'agressions sexuelles, des agressions imputées à des migrants. Émoi et indignation en Allemagne. L'extrême droite est dans la rue. Tentation du repli sur soi, montée des nationalismes. L'Europe est menacée par ses fractures. Des fractures aggravées par le terrorisme et l'absence d'une direction forte. Au point d'y voir la fin du projet européen. De l'autre côté de la Manche, on s'y prépare déjà. 53% des Britanniques se disent prêts à claquer la porte de l'Union.
Enrico Letta, nous allons bien sûr parler de la réaction en Italie, hein, de votre successeur. Mais tout d'abord, est-ce que cette affaire des migrants met à mal le projet européen ou est-ce que c'est une des crises qui ont marqué, au fond, l'histoire de cette Union européenne ?
Non, c'est pas une des crises, c'est la crise. Parce que si Schengen se casse...
L'accord de libre circulation. Hein.
Voilà, Schengen, c'est ne pas avoir les frontières entre nous. Ne pas avoir les frontières entre nous, c'est le plus grand succès de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe. Si tout ça se casse, c'est la fin. Je pense que c'est la fin. Et on est très proche de là. Et en plus, j'ajoute que même en termes de grands principes, l'Europe, c'est la fin des murs. L'Europe, c'est les ponts. Si on ferme les ponts et on élève des murs, ça, c'est pas l'Europe. Ça, c'est autre chose. On s'est battu pour avoir finalement la paix entre nous. Et la paix, ça veut dire la solidarité. On a vu deux grands pays européens, la France et l'Allemagne, qui ont demandé de la solidarité pendant les derniers 6 mois. La France, attaquée par le terrorisme terrible de Daesh. Et il faut plus de solidarité vers la France, qui est en première ligne là. L'Allemagne, qui est en première ligne sur les réfugiés. Solidarité vers l'Allemagne, oui. Comme naturellement, l'Italie a demandé solidarité dans le passé. Peut-être elle ne l'a pas reçue autant qu'on aurait dû faire. Mais tout ça pour dire que la solidarité, c'est la clé pour être en Europe. Ce qui ne veut pas dire ouvrir les frontières à tous. Il faut gérer les choses. Mais sans une approche de solidarité, c'est fini avec l'Europe.
On l'entendait, le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, disait il y a un défaut d'Europe, pas assez d'Europe.
Il n'y a pas assez d'Union de l'Europe, pas assez d'Europe dans l'Union européenne.
Vous, quelle est votre analyse ? À qui la responsabilité ? À qui la faute s'il n'y a pas assez d'Europe ?
Il y a un problème des États membres. Les États membres ont décidé, sur les grands sujets de sécurité, migration, de tenir les compétences à eux-mêmes. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas parce qu'on a dans nos portefeuilles l'euro que tout est géré par Bruxelles. Il y a les grands sujets de la sécurité des migrations qui sont gérés surtout par les États membres. Et les États membres jouent le jeu du bouc émissaire contre Bruxelles, alors que Bruxelles a beaucoup moins de pouvoir que ce qui est assez étrange. Quand je pense aux attentats du 13 novembre, ils démontrent que sans Europe dans la sécurité, ça ne marche pas. Les terroristes sont passés de la frontière France, Belgique, sans problème. Ils ont été contrôlés parce que les frontières étaient là pour la question de l'urgence.
Mais ce n'est pas à l'exécutif européen aussi de taper sur la table ?
Il faut que les gouvernements
seulement qui sont...
Non, il faut que l'exécutif tape sur la table. Mais il faut aussi que les États membres cessent de jouer au bouc émissaire. De dire que quand il y a quelque chose de positif, c'est eux. Et tout le reste, le négatif, c'est l'Europe. Parce que ça ne marche pas dans des sujets, migration, sécurité, dans lesquels, ça c'est ce que je dis, s'il n'y a pas d'efficacité européenne, on n'a pas de solution. Dans la sécurité, si on n'a pas de FBI européen, si on n'a pas de renseignements européens, si les renseignements italiens, français, français, belges ne se parlent pas entre eux, mais comment peut-on battre les terroristes ? C'est impossible.
Enrico Letta, on vient de voir dans le petit rappel, dans le sujet, un gros plan en quelque sorte sur l'Italie. Vous avez peu commenté, depuis que vous êtes à Paris, la politique italienne conduite par Matteo Renzi. Mais quand on entend un Premier ministre italien, en gros, avoir le discours de plus en plus classique, que Bruxelles ne donne pas de leçons, on n'a pas à faire des devoirs, on n'est pas... C'est un discours de rupture, ça c'est nouveau, c'est un ton nouveau en Italie. Pourtant, c'est la même continuité politique du Parti démocrate. Mais il y a une rupture du rapport avec l'Europe.
Oui, je n'apprécie pas ces tons. Je pense que l'Italie est le pays, entre les grands pays européens, qui a le plus à devoir aider l'Europe à être efficace et forte. Si l'Italie aide l'Europe à se casser, l'Italie fait un tort à soi-même, à elle-même, parce que sans Europe forte, l'Italie est un pays qui n'a pas une force étatique en soi-même capable d'être Alors, et de résoudre.
Pourquoi est-ce qu'il fait ça?
Je pense que ce sont des exigences de politique interne, domestique, électorale. Moi, je ne partage pas cette approche parce que l'Europe a besoin d'une Italie qui soit l'avant-garde. Non pas d'un fédéralisme sans question mark, d'une avant-garde pour savoir que pour résoudre les problèmes, il faut faire des choses ensemble. Et si les citoyens ne voient pas aujourd'hui les problèmes avec des solutions, ils vont donner des responsabilités à quelqu'un. Alors là, je dis, sur les migrants, la solution, c'est que immédiatement, rapidement, il faut faire une garde de contrôle des frontières extérieures de l'Europe, tous ensemble.
Ça existe?
Ça n'existe pas.
Il y a Frontex, on parle du renforcement considérable de Frontex.
Mais je parle de choses sérieuses. Je ne parle pas de choses qui ont été discutées, annoncées, et où on a mis de très peu de moyens. Pensons qu'est-ce que ça veut dire le contrôle des frontières. Il y a des pays, même la France, l'Allemagne, le Benelux, qui ont épargné un tas d'argent par la fin des frontières. Rappelons-nous ce que ça veut dire avoir des frontières avec des gens qui contrôlent chaque kilomètre des frontières.
Je me souviens,
on épargne un tas d'argent en n'ayant pas les frontières. Mais naturellement, il faut mettre cet argent à un contrôle des frontières extérieures de l'Europe qui soit fait ensemble.
Mais les pays ne veulent pas déléguer leur souveraineté à l'Europe.
Mais je ne dis pas qu'il faut déléguer complètement la souveraineté. Je dis par exemple que si on pense que l'Italie et la Grèce ne font pas bien leur devoir dans la Méditerranée en contrôlant les frontières. Bon, il faut faire un corps de garde frontière dans lequel il y ait des Allemands, des Français, des gens du Benelux, comme il est nécessaire qu'il y ait des Italiens, des Espagnols, des Français à la frontière entre à l'aéroport de Tegel, à Berlin. C'est la seule façon de faire marcher les choses, parce que si on n'a pas une frontière sécurisée à l'extérieur, le fait de ne pas avoir de frontière à l'intérieur de l'Europe ne marche pas. Donc il faut aujourd'hui la plus grande des priorités est faire cette garde des frontières à l'extérieur de l'Europe, la faire ensemble avec des moyens. Sans moyens, ça ne marche pas.
Alors, il y a deux pays qui supportent un très lourd fardeau de l'arrivée des migrants. Ce sont deux pays qui sont aussi économiquement assez fragiles. Il s'agit de la Grèce, il s'agit de l'Italie. Et il y a cette convention de Dublin qui précise que c'est à ces pays-là d'organiser l'enregistrement des migrants. Est-ce que vous pensez que là-dessus, il devrait y avoir des progrès et que l'on devrait mutualiser et organiser les choses autrement?
Oui, naturellement, ce sont deux pays qui ont des situations différentes. L'Italie n'est pas la Grèce. L'Italie a une situation économique différente par rapport à la Grèce. Mais le problème est le même. Et la solution du problème est seulement le fait que ce soit une mise en commun de la gestion des frontières extérieures. Et donc, puisque l'Espagne, l'Italie, la Grèce ont sur la Méditerranée une grande partie de la frontière de l'Europe, on doit faire un travail commun là. Donc, un travail commun, ça veut dire de l'argent, des gens. Et c'est pour ça que je pense que le premier pas est un pas de création de cette frontière extérieure. Et il faut le faire sérieusement. Moi, je pose le problème des hotspots.
Oui, il n'y en a que trois.
De ces lieux d'accueil, on précise les hotspots, les lieux d'accueil.
Moi, je suis.
Migrants.
Je crains toujours quand j'entends des noms qui sont des brands,
des marques
marques de publicité. Alors, hotspot, c'est parfait pour des émissions de télévision, des conférences de presse, mais qu'est-ce que ça veut dire, hotspot? Je n'ai pas encore compris, en réalité, qu'est-ce qu'un hotspot. Est-ce qu'on est en train de faire des hotspots vraiment, ou c'est quelque chose qu'on dit qu'on va le faire et ça résout le problème en soi, mais ça ne résout pas.
En théorie,
problème.
Ce sont des lieux où l'on regroupe les migrants,
en théorie.
Je dis pour nos téléspectateurs et auditeurs, où on regroupe les migrants avant qu'ils n'entrent de l'Union Européenne
en
pour
théorie.
Les identifier, les recenser, etc.
En théorie, mais comme vous venez de dire, avec le traité de Dublin comme il est aujourd'hui, la chose ne marche pas. En plus, la Grèce et l'Italie ont des milliers de kilomètres de frontières les côtes qui sont ingérables pour des raisons même de changement climatique, parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement les 5 mois de l'été, c'est pratiquement toute l'année, sauf janvier et février, qu'on peut passer les Méditerranées.
Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ces annonces qui sont vraiment faites à grand renfort, très médiatisées, ne rentrent pas dans les faits, ne se concrétisent pas?
Mais on voit ce qui est en train de se passer avec les pays de l'Est. Moi, je pense que la réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, même dans cette émission de Orban, mais même ce qui est en train de se passer en Pologne et Slovaquie, bon, moi, je pense qu'ils font une réaction très ferme. Ça, c'est pas l'Europe. L'Europe des murs. L'Europe qui ferme les ponts. Ça, c'est pas l'Europe.
Alors, pourquoi vous ne citez pas la Grande-Bretagne également?
Moi, c'est une autre chose, parce que la Grande-Bretagne n'est pas dans Schengen. Et en plus, j'ajoute, aujourd'hui, on a un autre problème avec la Grande-Bretagne. Le Brexit. Ouais. Moi, je pense que là, il faut faire tout le possible pour éviter le Brexit. Si
la sortie de la Grande-Bretagne, référendum dans quelques mois.
Oui, et on parle d'un référendum au mois de juin. Si au mois de juin, il y avait un référendum avec la sortie de la Grande-Bretagne, ce serait un autre pas de dégringolade de l'Europe. Mmh. Alors, je pense que ce serait négatif. Je pense qu'il faut l'éviter. Demain, je serai à Londres. Il y a un rendez-vous de Open Europe sur discuter du Brexit. Je vois que cette discussion n'est pas à la hauteur de la menace dans les autres pays européens. Les sondages disent tous qu'ils vont sortir. Mmh. Je ne suis pas entre ceux qui disent qu'ils sortent. Je pense que ce serait une grande erreur.
Pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe.
Je pense pour les deux. Pour la Grande-Bretagne, ce serait une erreur majeure. Sortir du marché intérieur pour Londres serait perdre la force que Londres a de... Et naturellement, pour l'Europe, on va perdre beaucoup s'il sort.
Vous parliez il y a un instant de la Pologne, de la Hongrie, il faut être ferme, etc. Jusqu'où l'Europe doit-elle être ferme, justement? Suppression du droit de vote, gel des crédits, ou alors on se contente de hausser un peu le ton?
Non, je pense pas qu'il faut seulement hausser le ton. Je pense qu'il faut être plus ferme. Il faut peut-être envisager des pressions politiques, non seulement des pressions formelles. Pression politique, ça veut dire que je vois que Orban, il est tranquillement dans le PPE, comme
Parti populaire européen, qui est
le parti le plus important en Europe. Il est au même niveau que Merkel et les autres. Mmh. Je pense que, par exemple, commencer par une pression politique là, serait la démonstration qu'on fait sérieusement.
Mais je voudrais revenir sur le cas du Royaume-Uni, parce que si la négociation, si on fait tout pour garder le Royaume-Uni dans l'Union, à ce moment-là, comment est-ce qu'on explique aux autres pays, à des pays qui sont dans une situation économique critique, à des pays d'Europe centrale, qu'il faut partager le fardeau et que certains peuvent profiter des avantages économiques de l'Europe et pas de la solidarité? Et
c'est pour ça que je pense que la négociation avec la Grande-Bretagne ne doit pas être une négociation sur des dossiers, en disant on vous donne ça, on prend ça. Non, il faut, when in trouble, go big. Il faut faire il faut monter de niveau. Et je pense que la seule solution est une grande solution politique qui dit on prend au sérieux le référendum britannique et on dit bon, puisque vous dites que vous ne voulez plus d'intégration et vous voulez un changement dans les traités, on vous dit, nous, les Européens de l'euro, qu'on vous prend au sérieux et on fait l'Europe à deux cercles. Sérieusement et définitivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se dit tous qu'on ne veut pas aller dans la même direction. Les Européens de l'euro veulent faire...
Une Europe à deux vitesses.
Voilà, à deux cercles, je dis, parce que les deux vitesses, ça veut dire qu'on va à deux vitesses différentes, mais dans la même direction. Ouais. Alors je dis deux cercles, parce que je dis les Britanniques et peut-être d'autres peuvent être dans cette union partageant des politiques, le marché intérieur, le commerce extérieur, sans vouloir avoir plus d'intégration. Alors que les pays de l'euro, pour faire marcher l'euro, ont fait l'union monétaire, mais on n'a pas complété avec l'union économique. Et sans union économique, l'euro ne va pas marcher. Alors je dis, plus d'intégration sur l'union économique des pays de l'euro, et un cercle plus large des 28, et donc de la Grande-Bretagne, et peut-être d'autres. Je pense aujourd'hui la Suède, sûrement, mais qui sait, peut-être la Pologne, peut-être la Hongrie, qui disent, nous, on partage des politiques. On reste dans les 28, mais le but n'est pas celui d'avoir plus d'intégration. Alors je pense que ça serait une bonne façon de tenir les Britanniques dedans et de faire marcher l'euro.
Henri Colletta, on vous retrouve dans une minute sur l'antenne de RFI et sur TV5 Monde, le temps sur ces deux antennes mondiales de faire un point d'actualité.